Oui, puisque j'appartiens aussi au groupe de recherche intérêt transdisciplinaire qui fait partie d'Alliance pour la planète, mais qui est aussi le groupe et le réseau qui avait été fondé par Jacques Robin. Et Jacques Robin, vous avez avec justesse et force placé un peu cette université d'été sous son égide. Il vient de mourir très récemment. Et la force de ce qu'il a laissé, je crois, est éclairante sur deux points cruciaux de notre débat. L'un sur penser les éléments de ce moment précis du Grenelle dans une perspective longue et structurante, et l'autre sur la question de l'émergence d'une société civique et pas simplement d'une société civile mondiale qui change la façon même de penser le rapport aux politiques, l'intervention publique et qui, du même coup, interroge l'écologie politique. Alors, quelques mots sur ces deux points. D'abord, on ne peut pas penser ce moment-là si on ne le situe pas dans une perspective longue qui est caractérisée par deux éléments. Évidemment, l'élément central, et Jacques Robin l'a à plusieurs reprises rappelé, notamment dans L'urgence de la métamorphose avec Laurence Baranski, qui est celui de ce rendez-vous crucial de l'humanité avec elle-même. Ce n'est pas tant la planète qui est en danger que l'humanité. La possibilité que l'humanité en finisse avec sa propre aventure, ou en tout cas connaissent des régressions considérables, est une possibilité, et une possibilité qui peut intervenir à court terme. Et quand on prend la question du rapport de l'humanité avec elle-même, on voit bien que la question centrale est une question qui traditionnellement n'est pas posée sur le plan politique, puisque c'est ce qu'on pourrait appeler la question de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence émotionnelle collective. L'humanité est une espèce qui ne s'aime pas et qui passe son temps à traiter son mal-être par de la maltraitance et par de la toxicomanie. Que la toxicomanie soit celle de la toxicomanie classique, que ce soit la toxicomanie de l'argent, la toxicomanie du pouvoir, la toxicomanie de la gloire, etc., c'est en permanence un mécanisme compensateur du mal-être. Et quand on regarde les grandes études internationales, on se rend compte que la plupart des problèmes cruciaux de l'humanité, non seulement écologiques, mais aussi sociaux, sont parfaitement traitables, y compris que des ressources existent pour les traiter, notamment des ressources financières. Je vous rappelle ces chiffres extrêmement éclairants du rapport de 1998, du rapport des Nations Unies pour le développement, qui faisait apparaître à l'époque que seulement 40 milliards de dollars, 40 milliards de dollars supplémentaires annuels auraient permis de traiter la question de la faim, de l'eau potable et des soins de base, qu'à l'époque, dans le même temps où on prétendait ne pas les trouver, on était capable d'en trouver 10 fois plus, rien que sur les budgets de publicité, 20 fois plus évidemment sur l'armement, 20 fois plus, ou en tout cas au moins 10 fois plus sur l'ensemble de l'économie des stupéfiants. Et on a eu au cours de l'été la démonstration éclatante, avec le début de crise financière, de cette contradiction absolue. En l'espace de 3 jours, on a été capable de mettre sur la table plus de 300 milliards de dollars pour sauver les fonds spéculatifs et le système bancaire international, alors même que les dégâts catastrophiques de la mousson en Inde ne recevaient que des aumônes. Donc quand on prend cette question-là, on voit bien que les formes de toxicomanie, du mal-être et de la maltraitance sont cette question cruciale de ces rendez-vous de l'humanité avec elle-même. Et puis, dans la perspective longue, vous avez un autre élément qui, je crois, est fondamental à prendre en compte, c'est que la question du dérèglement climatique est probablement, pour les courants néoconservateurs, l'équivalent de ce que le couple globalisation financière et mutation informationnelle a été pour les courants sociaux-démocrates et les courants progressistes à l'échelle internationale. C'est-à-dire la question qui n'a pas été anticipé, qui n'a pas été pensé, qui n'a pas été préparé, et qui fait que lorsqu'on se retrouve sur les moments de contradiction, eh bien, on les traite dans le désordre et de façon défensive. Toute la révolution conservatrice anglo-saxonne, et le sarkozysme n'est que le mime de cette tentative en France, est fondée sur un triptyque qu'on pourrait appeler le modèle DCD, qui est celui de la dérégulation, de la compétition et de la délocalisation. Eh bien, la question climatique montre à quel point ce modèle est strictement inopérant pour penser cette question-là, puisqu'évidemment, il y a au contraire besoin de régulation, il y a besoin de coopération et il y a besoin de plus en plus de relocalisation. Et dans cette situation-là, vous avez des cycles politiques qui peuvent être des cycles politiques courts, qui sont en contradiction avec des mouvements structurels longs. Dans un pays comme la France, la droite a gouverné pendant une trentaine d'années sur un modèle structurel et culturel qui était un modèle de type social-démocrate. Et inversement, la gauche est arrivée au pouvoir dans une conjoncture historique où ses effets structurels et culturels, précisément parce qu'elle ne les avait pas anticipés et préparés, les a placés dans une position défensive. Mais d'une certaine façon, les courants conservateurs à l'échelle internationale sont confrontés à ce même défi. Ça ne veut pas dire pour autant que ça crée mécaniquement des conditions pour que des courants écologistes, transformateurs, progressistes, etc. soient capables de revenir sur le devant de la scène. François Mitterrand a été parfaitement capable de tenir le devant de la scène politique dans un cycle structurel et culturel qui était contraire à la gauche. Et on peut faire confiance à Nicolas Sarkozy si les erreurs de ses adversaires continuent avec un tel brio pour être capable d'exploiter de la même façon. Mais quand on prend les questions structurelles fondamentales de ces rendez-vous de l'humanité avec elle-même pour lesquels les enjeux écologiques et notamment l'enjeu du dérèglement climatique fait obligation à l'humanité de changer non seulement ses modes de production et de consommation, mais de changer aussi profondément ses comportements et ses postures de vie, alors à ce moment-là, il y a un défi qui est un défi qui oblige, et c'est le second point fondamental du point de vue de la mutation démocratique, à penser différemment les objets de la conflictualité sociale. À inventer ce que, avec Hélène Combes à l'Observatoire de la décision publique, nous appelons de la collaboration conflictuelle. C'est-à-dire à arrêter d'être dans un système binaire où on est soit forcément dans l'accord, soit forcément dans un rapport de type ami-ennemi, pour passer à un modèle où il y a un espace commun. Et dans cet espace commun, la construction de conflits, la construction de désaccords est une alternative à la violence et non l'inverse. Et dans cette perspective-là, et plusieurs intervenants du côté associatif l'ont dit, l'émergence de ce qui n'est plus simplement une société civile, mais une société civique, c'est-à-dire des acteurs de la société civile qui pense la question politique, qui s'approprie la question politique, mais qui s'approprie la question politique sur un autre mode que le rapport au pouvoir traditionnel. Et par exemple, Jacques Robin, quand il avait été l'un des inspirateurs des États généraux de l'écologie politique, son souci, c'était celui-là. Comment inventer des formes politiques qui sont fondées sur un rapport de partenariat et non pas sur un rapport de dépendance, tel que par exemple le modèle social-démocrate l'avait construit à l'égard du mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, au passage, c'était plus les débats antérieurs que le débat d'aujourd'hui, mais une des raisons pour lesquelles il me semble que les Verts connaissent ce paradoxe tragique d'être confronté au fait que jamais la question de l'écologie politique n'a été aussi déterminante et en même temps jamais ils n'ont été aussi faibles, c'est notamment parce que lorsque de ce moment que j'ai bien connu, qui était celui des États généraux de l'écologie politique, où l'émergence possible de cette autre forme partenariale était en jeu, eh bien d'une certaine façon, cet enjeu-là, cette opportunité-là n'a pas été saisi pleinement. Et du coup, on a vu les autres acteurs de la société civile considérer que justement l'urgence de la question écologique était telle qu'on ne pouvait plus seulement attendre des acteurs politiques, fussent-ils les acteurs politiques de l'écologie politique, le fait de s'approprier l'exclusivité de l'intervention politique sur cette question. Et toute la démarche, par exemple, d'Alliance pour la planète, les nouveaux modes d'intervention publique politique pendant la campagne, l'histoire de la notation, on oublie trop souvent que le Grenelle n'est pas une idée de Nicolas Sarkozy, mais une des propositions, revendications d'Alliance pour la planète, et que c'est le fait de se retrouver dans cette situation vexatoire de sa note en dessous de la moyenne qui l'a amené aussi à devoir bouger sur cette question-là, eh bien, tous ces nouveaux modes d'intervention publique posent la question de l'émergence de cette société civique. Je vais prendre un tout petit peu d'eau parce que j'ai tendance à... Ça, c'est le problème des médicaments qui assèchent. Quand on a en tête ces deux éléments structurels longs, ces rendez-vous de l'humanité avec elle-même et derrière la question des changements comportementaux, y compris dans le rapport au pouvoir, cette émergence d'une société civique qui s'est d'abord construite sur le terrain qui était le plus difficile, le terrain planétaire, l'émergence en une décennie d'une société civique mondiale pratiquement sans argent, sans médias, sans pouvoir institutionnel, est la démonstration, justement, de la capacité créative d'un rapport au pouvoir, qui est un rapport de pouvoir créateur, et qui est très différent d'un rapport au pouvoir, qui est un rapport dominateur. Donc il faut inscrire les éléments de cette mutation démocratique et de la façon de concevoir des occasions de conflictualité, qui sont des occasions d'échapper au couple binaire du débat tel qu'il nous est proposé. Parce qu'évidemment, si vous posez la question Grenelle de rupture ou Grenelle de dupe, comme, sauf à être d'un idéalisme forcené, personne ne peut prétendre sérieusement que sous ce gouvernement, vous allez avoir une rupture radicale en matière écologique, ben, si vous restez dans ce système binaire, vous êtes obligé de reconnaître que du coup, c'est un Grenelle de dupe. Bon. Et du coup, derrière, vous avez des bons apôtres qui vont vous dire, vous voyez, c'était quand même mieux quand les vrais politiques menaient la barre. Non, évidemment, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Comme toute référence à Grenelle, c'est d'abord une situation de conflictualité et d'enjeu commun pour une collectivité. Et une collectivité qui, évidemment, ne peut pas être exclusivement la collectivité française. Et s'il y a des éléments structurants utiles, y compris pour l'avenir, c'est que ce type de rendez-vous soit, à l'évidence, des rendez-vous de nature internationale et pas exclusivement français. Et c'est à l'aune de ces formes de conflictualité et de nouveaux rapports de collaboration conflictuelle qu'on pourra juger ou non d'un certain nombre d'avancées. Je vais vous en donner deux exemples qui sont sur des terrains peu spectaculaires, mais sur lesquels, par exemple, la bataille à l'intérieur du groupe 6 auquel je participe sont des éléments déterminants sur l'avenir. La question des modes de représentation et des modes de comptabilisation de la richesse d'une part et la question du rapport avec la loi organique des lois de finances. Sur ces deux questions, on est sur du temps long. Vous pouvez, avec la meilleure volonté du monde, organiser tous les 10 ans des sommets de la Terre. Si le système de représentation et de comptabilisation de la richesse continue d'être celui qui domine avec la comptabilité nationale depuis les années 50, inévitablement, non seulement on continuera à regarder ailleurs pendant que la maison brûle, mais on mettra de l'huile sur le feu de la maison qui brûle. Parce que tous les matins, les entreprises continueront d'être jugées sur leurs résultats, sur des éléments d'évaluation qui sont contre-productifs, qui les incitent à organiser de la croissance insoutenable. Et c'est la même chose pour les États avec le système de la comptabilité nationale et du produit intérieur brut. Donc la réforme même... la réforme même de ce que nous appelons richesse, la façon différente, y compris de la compter, sont des éléments structurants. Quand dans le débat de l'après-midi à l'Élysée, où à l'époque Juppé était encore ministre, on a abordé ces questions, y compris avec Edgar Morin, où on ne l'attendait pas sur ce terrain, pour montrer le lien entre des enjeux de civilisation et des enjeux apparemment beaucoup plus techniques et méthodologiques, ben on a bien senti qu'on avait des partenaires adversaires qui découvraient en quelque sorte qu'il y avait là des champs auxquels ils n'avaient même pas pensé. C'est la même chose sur le problème de la réforme de la loi de finances. Cette réforme, elle a mis 30 ans à advenir. Elle est censée donner au Parlement un rôle beaucoup plus important. Elle est censée construire de véritables politiques publiques, là où vous aviez une sédimentation de 800 chapitres budgétaires absolument incompréhensibles, et de les organiser autour de missions et autour de programmes. Si cette réforme reste dans sa bulle et est complètement indépendante des enjeux de réorientation de modèles de développement, cette réforme ne servira à rien, elle s'effondrera sur elle-même. Si, au contraire, la même réforme est organisée, pensée, débattue, objet de conflit et de négociation, de façon à ce que sur chaque mission, sur chaque programme, sur chaque action, ce sont les critères liés aux alternatives à la croissance insoutenable qui sont débattus, qui sont mis en œuvre, alors à ce moment-là, ça veut dire que chaque année, le rendez-vous démocratique sur la loi de finances devient un rendez-vous fondamental sur les réorientations des modes de développement. Donc que vous preniez la question des indicateurs des systèmes comptables, que vous preniez la question de la loi de finances, ou que vous preniez autre point qui avait été débattu à l'Élysée l'après-midi, la question du statut de l'expertise et des positions minoritaires, qui permet à la fois de créer des conditions d'une garantie d'expertise indépendante, alors que nous savons bien que dans ce pays, l'un des problèmes démocratiques fondamentaux, c'est qu'il n'y a plus d'expertise indépendante pour des raisons financières, pour des raisons de pouvoir technocratique. Cette question du statut de l'expertise, elle devient centrale, aux confluences, par exemple, des questions du groupe 5 et du groupe 6. Et le fait d'organiser, de la même façon qu'il est légitime dans une démocratie, qu'il y ait un statut pour l'opposition, il faut un statut pour les positions qui sont, à un moment donné, minoritaires, de façon à ce qu'il y ait des budgets, des capacités d'expertise attribuées à toutes les propositions alternatives. Vous voulez sortir du nucléaire, vous avez le droit et vous avez les moyens publics pour disposer de la préparation et d'une offre publique démocratique sur ces questions. Même chose sur les OGM, même chose sur les problèmes de santé, environnement, etc. C'est-à-dire, quand bien même, ce qui est hautement probable, il n'y aurait pas d'accord sur ces questions-là, s'il peut y avoir une avancée sur une place et des moyens donnés dans un processus de conflictualité démocratique pour que ces autres propositions alternatives permettent, lorsque la communauté nationale, soit sous la contrainte des faits, soit par choix politique, décide de changer d'orientation, eh bien, elle ne part pas de zéro. C'est comme l'équivalent d'un formidable budget de recherche et développement qui est construit sur la capacité donnée à des propositions alternatives de se développer et du même coup de rentrer dans le jeu de la conflictualité positive, excusez-moi, et de ne pas rester simplement dans une pure attitude protestataire. Voilà, dans cette perspective, pourquoi il me semble qu'il y a là une opportunité dans la transformation même du rapport au pouvoir qui est utile à saisir. Merci.